On continue notre étude sur le thème de l'Évangile de la prospérité. On a déjà dénoncé plusieurs fausses promesses. Ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, ces promesses-là, mais c'est que ce n'est pas ce que Dieu a promis. Dieu n'a pas promis qu'on serait riche sur la terre, quoi qu'il peut donner la richesse, mais ce n'est pas une promesse qu'il a faite à ceux qui ont la foi. Il n'a pas promis non plus la santé jusqu'à ce qu'on meure. Et plusieurs parmi nous peuvent être malades sans que ce soit causé par un manque de foi ou un péché. Dieu n'a pas promis non plus qu'on serait honoré sur la terre, aimé des gens, respecté. Même, il a plutôt annoncé le contraire. Bien souvent, on va être persécuté. Une fausse prière aussi qui est de proclamer, de réclamer des choses, que l'action de notre bouche est presque une parole magique pour créer la prospérité. On a vu que c'est faux, la Bible ne dit pas cela. Une fausse déclaration de l'œuvre de Jésus à la croix aussi. Supposément, Jésus serait passé de la vie qu'il avait à une mort de pécheur, qu'il a subi même un châtiment en enfer. Ensuite, il a eu une nouvelle naissance. Puis pour que nous aussi, nous puissions naître avec lui, et il nous libère de toute la souffrance. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus est mort pour payer pour nos péchés. Il est mort à notre place pour que la culpabilité, le péché soit enlevé et qu'on soit juste aux yeux de Dieu. Mais pas pour nous libérer de toute souffrance ici sur terre. Ça, c'est pour la nouvelle terre. On commence aujourd'hui, on va continuer la semaine prochaine avec Jean-Luc. Une fausse déclaration qu'on entend souvent dans des églises, c'est que Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent, que ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on souffre. Donc, certains même vont nous reprendre lorsqu'on dit qu'on demande à Dieu d'intervenir, mais on lui dit, mais que dans tout cela, que ta volonté se fasse. Parfois, ces gens-là vont nous reprendre en disant, vous manquez de foi. Si vous aviez la foi, vous ne diriez pas que la volonté de Dieu se fasse. Parce que c'est sûr que la volonté de Dieu, c'est que la personne guérisse, qu'elle soit riche, qu'elle n'ait pas de problème financier, qu'elle soit aimée, qu'elle ne vive plus d'injustice. Mais c'est pas vrai. Non, en tout cas, on va étudier cela aujourd'hui. Le thème de la souffrance selon la Bible. Donc, l'Évangile de prospérité est populaire, et beaucoup populaire, c'est dans tous les continents sur la Terre, là, parce que ça s'appuie sur les désirs les plus fondamentaux de l'homme. Le désir de s'enrichir, le désir d'être en santé, d'être populaire. Et, entre autres, on promet aux gens la fin de leur souffrance. Mais c'est mieux d'étudier ce que la Bible enseigne plutôt que d'accepter ce que les gens disent, même si ce sont de belles paroles qui plaisent à nos oreilles. On va commencer aujourd'hui par se rappeler l'origine de la souffrance. D'où est-ce que ça vient? Avant que la souffrance vienne sur la terre, à l'origine, le monde créé par Dieu était parfait. On lit le témoignage de Dieu lui-même dans Genèse 1, 31. « Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. » Donc, on doit conclure même que la vie sur terre était sans mal, une absence de mal. Une absence de souffrance physique ou psychologique, pas de maladie, pas de haine, pas de violence, pas de manquement de toutes sortes, pas de disette. On peut même aller jusqu'à conclure que même dans le règne animal, c'était sans violence. Ce n'est pas tous les théologiens qui sont d'accord avec cela. Il peut y avoir un débat parce que il n'y a pas beaucoup de détails qui sont donnés dans la Genèse, on doit l'avouer. Mais Dieu a donné aux animaux l'herbe des champs pour qu'ils mangent. On ne voit pas... Avant la chute, on ne voit pas de prédateur, un lion qui mange une gazelle. Peut-être que ça existait depuis le début, mais je pense plutôt que c'est arrivé après la chute. Même ce qu'on considère comme naturel aujourd'hui, qu'un prédateur mange une proie, puis qu'il y a comme une chaîne alimentaire, mais c'est beaucoup de violence, là. Même la première fois que j'ai vu ça à la télévision, là, un guépard là, qui tuait une gazelle, puis que le sang revole, là, j'étais un peu choqué de cela quand j'étais enfant. C'est de la violence qu'il y a dans la nature. Je pense qu'à l'origine, il n'y en avait pas. Comment vous comprenez le monde avant la chute? Au commencement, il n'y avait pas de souffrance. Donc, on peut dire que la volonté de Dieu, c'était qu'il n'y ait pas de souffrance dans le monde, à l'origine, dans son plan. Et Dieu avait averti Adam, puis indirectement Ève, parce qu'Adam a sûrement transmis cette consigne-là à Ève. Il a averti Adam et Ève que s'ils lui désobéissaient, la sentence serait la mort. Et il y avait une seule interdiction, c'était de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et malheureusement, ils l'ont défié. Et c'est à ce moment-là que la vie sur la terre a été remplie de violence, de mal. Ça s'est transformé en un chemin parsemé de souffrances qui se termine finalement par une grande souffrance qui est la mort. Donc, toute la vie terrestre a été transformée. Donc, tous les éléments de souffrance qui peuvent survenir, on déduit que c'est causé par la chute. Donc, c'est lorsque Dieu a dit « tu mourras », Adam, à partir de ce jour-là, est devenu mortel et il était en train de mourir. jusqu'à ce que finalement son dernier souffle s'en aille et qu'il retourne à la poussière. Il a comme entré dans un chemin qui conduit à la mort. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais, mais il y a du mal partout. D'ailleurs, on voit une description dans Genèse 3, lorsqu'ils ont péché. Leur réaction, ça a été la peur. C'était la première fois qu'ils avaient peur. Ils ont eu honte. Ils sont allés porter des vêtements. Avant cela, ils pouvaient être nus sans aucune honte. Donc, la peur est arrivée, la honte. L'orgueil aussi. On ne voit pas nécessairement l'attitude d'Adam lorsqu'il répond à Dieu, qu'il le questionne, mais on dirait une forme d'orgueil, là. Il rejette le blâme même sur la femme que Dieu lui a donnée. La femme rejette le blâme sur le serpent. Ils ne sont même pas prêts à accepter leur propre faute. Puis il y a un bris de communion avec Dieu. À ce moment-là, on voit que la relation intime qu'ils avaient avec Dieu a été brisée. Non pas que la communication n'est plus possible, parce que Dieu vient et il leur parle, mais la relation d'intimité n'est plus là. On voit le mal qui s'introduit aussi par une forme de condamnation de Dieu, une malédiction, où Dieu déclare que les grossesses seront douloureuses. La relation de couple va être conflictuelle aussi. La femme va vouloir prendre la place de son mari. Son mari va la dominer. Donc, il va y avoir des conflits, et ça jusqu'à la fin des temps. Le travail du sol va être pénible aussi. C'est à la sueur de notre front qu'on doit faire sortir le fruit, les légumes du sol. Ça, ça semble être une indication que toute la terre, en fait, elle est corrompue. Tout le système sur la planète est corrompu. Et éventuellement, la mort, le retour à la poussière, d'où l'homme a été formé. Puis qu'est-ce qu'on voit par la suite? Vous vous souvenez, c'est quoi les prochains événements dans Genèse? Après que Dieu chasse Adam et Ève du jardin, il met des chérubins pour barrer l'entrée. Qu'est-ce qui arrive? Pardon? Oui, Caïn et Abel. Le premier exemple de grand conflit, de rivalité, de haine, bien, la mauvaise attitude est du côté de Caïn. Et ça conduit jusqu'au meurtre. Fait que tout de suite, on a une indication claire que, oh, la haine est rentrée dans le monde, la querelle, la jalousie, le meurtre même. Puis les hommes se multiplient, les descendants de Caïn, puis ils remplissent la terre de violence. Au point où ce que Dieu même regrette. Il a du regret lorsqu'il voit l'humanité. Puis il veut détruire la terre. Donc la terre est remplie de violence, de meurtre. Et c'est comme un cercle vicieux, ils ne peuvent pas s'en sortir. Même Caïn semble impuissant à se repentir et retourner sur le droit chemin. Donc, à l'origine, Dieu a créé un monde parfait. La souffrance n'est pas causée directement par Dieu. C'est à cause de l'homme. C'est l'homme qui a péché, qui a introduit la souffrance dans le monde. Mais c'est sûr que tout ça accomplit le plan de Dieu. Ce qui fait le trouble sur la planète, c'est l'homme corrompu, là. La pollution. Mais il y a même des choses qu'on voit qui se passent, qui sont hors de notre contrôle, mais des grosses tempêtes, des ouragans. Je pense pas que dans le jardin d'Éden, il y avait des ouragans et des tsunamis, des tremblements de terre, là. Fait que même la terre elle-même, la constitution de la terre a été transformée par la condamnation de Dieu. Oui, Michel? Quelle est la solution à cette souffrance-là? Bien, ce n'est pas ce que l'Évangile de prospérité propose. Ce qu'ils proposent, c'est ils alimentent le désir de s'enrichir, de confort, de prospérité. Même, ça alimente presque l'orgueil qu'on a dans le cœur. Pourtant, c'est ça qui avait fait tomber Adam et Ève. C'est qu'ils considéraient que la relation avec Dieu n'était pas suffisante. Pour eux, c'était pas assez précieux. Satan les a tentés, ils ont considéré qu'ils pouvaient avoir plus. Que finalement, Dieu était mauvais envers eux, puis il était injuste, puis ce qu'il leur donnait, c'était pas assez. Puis l'Évangile de prospérité, très souvent, propose ça, quelque chose de plus. Qu'avoir une relation avec Dieu, c'est pas assez. C'est même secondaire. Pourtant, la solution, c'est cela, c'est de se réconcilier avec Dieu. C'est ça qui a été brisé à la chute. Donc, la solution, c'est l'inverse, c'est de se réconcilier avec Dieu. Même, toute la création s'est présentée comme une restauration, une réconciliation avec le Créateur. Mais ça passe par l'homme en premier. L'homme doit être réconcilié. Et cette réconciliation-là, elle est procurée par la mort de Christ, par le moyen de la foi. C'est le vrai Évangile. Et cette réconciliation-là avec Dieu elle procure beaucoup de bénédictions spirituelles. Pouvez-vous en nommer quelques-unes? Oui, la vie éternelle, bon, ça c'est la plus grande, c'est qu'on va pouvoir vivre éternellement avec Dieu. Et ça sous-entend une autre bénédiction, c'est qu'on est réconcilié avec Dieu, on a une relation avec Dieu, parce que la vie éternelle, c'est en Christ, en Dieu. D'autres bénédictions? Oui, une place en sa présence. On est des citoyens du royaume des cieux. Oui, la paix, la joie. Et donc ça, ça touche à une autre bénédiction qu'on a, c'est notre espérance. Même Paul, il dit dans Éphésiens là, que le fait que Dieu nous a révélé ces choses-là, qu'est-ce qui nous attend, c'est un immense privilège qu'on a, c'est une bénédiction en soi, ça, parce que ça nous donne l'espérance. Parce que Dieu aurait pu nous sauver, puis garder ça secret, ne pas nous dire qu'est-ce qui nous attend. Puis il nous a fait, faites-moi confiance, après la mort, il se passe quelque chose. On lui aurait fait confiance, mais là, il nous fait le privilège de nous dire qu'est-ce qui nous attend. Donc, ça nous donne une espérance, une raison de vivre. Un autre aussi, on est adopté dans la famille de Dieu. On devient les enfants de Dieu. On devient les frères et sœurs de Jésus. C'est toute une bénédiction, ça. Surtout lorsqu'on... ça dépend de la situation de chacun, mais il y en a qui peuvent souffrir de solitude là, sur la terre. Là. Ou d'avoir été rejetés par leur famille, ou même de ne pas avoir de famille. Mais quand on entre dans la famille de Dieu, wow, c'est tout un privilège. On est intégré dans le peuple de Dieu aussi. Donc, il devient notre roi. Et en plus, on a le privilège de servir Dieu. Donc, on peut servir ce roi. Puis même Dieu nous dit que lorsqu'on fait ça, c'est comme si on cherche des choses d'en haut. On est en train de même s'accumuler un trésor dans les lieux célestes. Et Dieu promet, un jour, la fin de la souffrance. Donc, une vie éternelle, future, mais pas juste une vie éternelle, pas juste l'immortalité dans un monde qui est encore pourri, là. C'est une vie éternelle d'abondance. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun manquement. C'est une vie éternelle pleinement satisfaite. Pas juste parce qu'on se contente de ce qu'on a, mais parce que c'est plus que ce qu'on voudrait même. Donc, ce qui nous attend, ça va dépasser toutes nos attentes, tout ce qu'on pourrait imaginer, tout ce qu'on pourrait désirer. 2 Pierre 3,13 dit, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Donc, plus aucune forme d'injustice, plus de discrimination, plus de propos qui ne sont pas trop justes à notre égard. Plus besoin d'avocat, wow! Ouais, plus de maladie, c'est vrai. Plus besoin de médecin. Apocalypse 21 dit, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et cette nouvelle terre, on peut voir que c'est comme la terre présente, qui va être détruite, mais reformée, en une nouvelle terre. C'est comme une terre régénérée. Puis ça, on le voit dans Romains 8. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. » Aussi, la création, même, c'est comme si la création pouvait penser, là. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Donc, quand, à la fin des temps, les fils de Dieu vont être révélés, qui sont les enfants de Dieu, qui est le peuple de Dieu? C'est comme si la création attend cela. Car la création a été soumise à la vanité. On lit ça dans Ecclésiaste, que tout est vanité. C'est-à-dire que tout finit par passer, tout s'effrite, tout s'érode, il n'y a rien qui dure, tout se souille. Mais toute la création a été soumise à cela, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc Dieu se réconcilie non seulement avec sa créature, mais avec toute la création qu'il a créée. Et nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, on sait, à l'origine, la terre était sans souffrance. Lorsqu'il y a eu le péché, la souffrance a été introduite. Et on sait qu'à la fin, il n'y aura plus de souffrance. Dieu va rétablir l'ordre originel, même encore mieux. Mais là, il y a une question qui demeure, c'est entre-temps, qu'est-ce qui arrive dans le temps présent? Et ce que l'Évangile de prospérité affirme, c'est que Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Donc, ceux qui croient en Jésus, qui deviennent les enfants de Dieu, automatiquement tombent dans le nouveau règne, le nouveau monde, et automatiquement, Dieu change de plan pour eux. Au lieu qu'ils soient maudits, Dieu veut qu'ils ne souffrent plus, qu'ils soient bénis. Mais entièrement, présentement, selon ce qu'ils disent. Quand on dit que Dieu ne veut pas, ce que tu veux dire par là, c'est que Dieu ne désire pas qu'on souffre.
Oui.
C'est ça. C'est vrai que Dieu ne désire pas qu'on souffre. Ça lui fait mal au cœur. Il n'aime pas ça. Ça ne lui plaît pas, la mort de ses serviteurs. Mais en même temps, on dit que c'est ce qu'il veut parce que c'est son plan. Donc, même si ce n'est pas par gaieté de cœur, c'est pas seulement qu'il est obligé, il n'a pas le choix. C'est quand même sa volonté. On va le voir plus loin, là. C'est quand même ce que Dieu veut. Et c'est pas seulement à cause... Bien, à l'origine, oui, c'est une conséquence du péché. Mais maintenant, si on souffre, ce n'est pas seulement à cause du péché. Ça se peut même que je pêche dans ma vie, je suis en train de pratiquer un péché, puis Dieu, pour me corriger, va m'infliger une certaine souffrance pour que tout à coup, je me ramène dans le bon sens, sur la bonne voie. Mais pas toujours. Là. Il y a une tonne de souffrances, de douleurs qu'on peut connaître qui n'ont pas rapport avec un péché qu'on commet dans notre vie. Et ce n'est pas seulement parce qu'on est dans un monde pécheur. Il y a des objectifs que Dieu veut atteindre par les souffrances qu'on vit. Mais ça, on va le voir plus la semaine prochaine avec Jean-Luc. Tout ça sert, à la fin, à sa gloire. Même si on ne comprend pas tous les chemins que ça passe, là, pourquoi de tout, chaque événement, on sait que finalement, à la fin, là, tout se joint et c'est pour glorifier Dieu. Oui?
Jésus a appris les choses par les choses qu'il a souffert.
Ah! C'est vrai. Ouais. C'est déjà un petit preview, là, mais la souffrance sert entre autres à nous former, à ce qu'on apprenne les choses. Donc, à ceux qui disent « Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent », on peut répondre que Jésus, c'est le Fils de Dieu et pourtant, il a grandement souffert. Et même, on lit dans Ésaïe qu'il a plu à Dieu que son Fils souffre parce qu'il accomplissait sa volonté. Et sa volonté, elle est bonne. Mais eux, ce qu'ils vont répondre à cela, oui, Jésus a souffert. Ils ne peuvent pas le nier. Mais ce qu'ils vont dire, c'est que Jésus a souffert à notre place pour qu'on n'ait pas à souffrir. Donc, la question demeure. Est-ce que ça veut dire que si vraiment on est avec Jésus, on ne souffrira plus puisque Jésus a porté nos souffrances, nos douleurs? Selon eux, il s'agirait d'avoir une foi véritable pour que nos souffrances diminuent. Plus notre foi augmente, moins on va vivre de vicissitudes. Moins la tempête va souffler. L'épreuve de la tempête, même s'ils avaient eu une grande foi, ils auraient vécu quand même l'épreuve de la tempête, mais ils n'auraient pas vécu dans la souffrance de la peur, effrayés, terrorisés. S'ils avaient eu une grande foi, ils auraient pu être en paix même dans cette épreuve de la tempête.
Le bon texte qu'on s'en met toujours, c'est Romains 8, 28 à 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés. Puis là, il parle de ce reste, la tribulation, les angoisses, les tourments, etc. La fin, ça veut dire qu'on n'explique pas, qu'il n'explique pas qu'il va y avoir des angoisses, qu'il va y avoir des moments difficiles. Mais dans toutes ces choses, on est vainqueur en Christ.
C'est vrai.
Ça explique un peu.
Ah, c'est bon. Puis toutes ces choses-là même conduisent, concourent au bien. Un exemple de cela, c'est l'apôtre Paul. Parce que si on admettait avec eux, bon, OK, Jésus a souffert, mais eux, ce qu'ils disent, c'est Jésus a souffert pour qu'après, son Église ne souffre pas. Mais c'est pas ça qu'on voit dans le Nouveau Testament. Son Église souffre. Et s'il y a un homme de foi dans le Nouveau Testament, c'est bien Paul. Et il a souffert là, des souffrances inimaginables. On a un aperçu de ce qui nous est rapporté dans les Actes et dans les Épîtres. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait un homme qui a souffert autant. Si la vie sans souffrance est accessible à tous ceux qui ont suffisamment de foi, pourquoi l'apôtre Paul a-t-il tant souffert? Est-ce qu'on doit conclure qu'il manquait de foi? N'était-ce pas plutôt la volonté de Dieu que Paul souffre? Quelqu'un peut nous lire Actes 9, 15 à 16. Ça, c'est quand Dieu envoie Ananias pour aller chercher Paul. Mais Ananias, il a peur. C'est pas ce gars-là qui faisait enfermer les chrétiens dans la prison, là?
Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de foi, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom.
Ouais, combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Donc c'était le plan de Dieu. Il a choisi Paul pour qu'il souffre pour son nom. Donc, si on dit que ce n'est pas la volonté de Dieu, là, Dieu voulait que Paul souffre pour son nom. Puis Actes 20, 22 à 24. Je n'ai pas fait des recherches très, très exhaustives, là, mais j'ai entendu quelqu'un qui disait que la seule souffrance qu'un chrétien peut s'attendre à vivre, c'est des attaques de l'ennemi, de Satan, qui utilise des hommes pour lui faire du mal. Mais que même ça, on peut le contrer si on a suffisamment de foi. Puis que, je ne sais pas, peut-être que Paul il était en progression dans sa foi, puis peut-être qu'il était en train de souffrir de moins en moins, mais ce qu'ils vont dire, c'est que c'est seulement des attaques de persécution qu'on peut subir comme souffrance. Mais est-ce que c'est la seule souffrance que Paul a subie? Oui, c'était beaucoup la persécution, là, mais à un moment donné, il a fait naufrage. C'est-tu à cause de la persécution qu'il a fait naufrage? C'est une tempête qui a soufflé sur le bateau, là. Donc, il a subi toutes sortes de souffrances qui n'étaient pas directement causées par la persécution, là. On voit, Paul en parle aussi de ses souffrances. Lui, non seulement il les acceptait, mais il avait compris que c'était même utile, les souffrances, pour attester qu'il était véritablement serviteur de Dieu. Ça venait même authentifier son ministère. Et il pouvait même déclarer les souffrances qu'il subissait pour comme prouver qu'il était véritablement un apôtre de Jésus. On lit ça dans 2 Corinthiens 6. « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Regardez comme des imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici que nous vivons, comme châtiés, un peu comme sur l'île, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, nous possédons tout, en réalité. Donc, ils sont constamment mal compris, méprisés. Mais tout cela, ça vient rendre témoignage qu'ils sont des serviteurs de Dieu, leur persévérance dans les tribulations. Donc, pas, c'est pas le fait d'être riche, en santé et populaire, qui est une preuve qu'on est un vrai homme ou une femme de Dieu. C'est le fait de persévérer dans la souffrance, selon Paul. Dans 2 Corinthiens 11, 23-28, on lit, « Sont-ils serviteurs de Christ? Je le suis plus encore. » Comment? Par les travaux, bien plus par les emprisonnements, bien plus par les coups, et bien davantage. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes. Là, on comprend que c'est des jeûnes forcés ou peut-être volontaires. Dans le froid, dans le dénuement, et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Donc, en plus d'avoir toutes les souffrances qu'il subissait, il y avait comme toujours une angoisse dans le cœur parce qu'il y avait un grand souci pour les églises. Toujours cette pensée-là là, qui le poussait à prier. Il dit qu'à tous les jours, il prie, même pour les chrétiens. Il avait tellement peur que les églises qu'il avait implantées, finalement, abandonnent le Seigneur, tombent dans des fausses doctrines. C'est un fardeau de plus, c'est un souci qui s'ajoutait à sa souffrance. Mais c'est impressionnant de voir toutes les souffrances qu'il a vécues. Même lorsqu'il a été lapidé, il était tellement magané que les gens étaient sûrs qu'il était mort, puis ils l'ont laissé là. Finalement, les disciples sont venus le chercher, il n'était pas mort. Le lendemain, il repart pour continuer sa mission. C'est vrai, ça, c'est une autre utilité à la souffrance qu'on peut voir, c'est que ça met en évidence la grâce de Dieu pour nous délivrer, nous aider à persévérer, une force surnaturelle, ouais, le courage. Ça met en évidence, en fait, la force de Dieu. Ouais, il est quand même cité, mais pas un passage comme ça. Puis, je voudrais qu'on réfléchisse un peu sur le fait qu'il a été 5 fois, il a reçu 40 coups moins 1. C'est pas juste des petites claques, ça. C'est d'être flagellé. Les historiens nous racontent ce que ça voulait dire, là. C'était d'être dévêtu, le dos nu, attaché à un poteau. Pas seulement pour éviter que le gars se sauve, mais pour éviter qu'il tombe par terre, pour être sûr qu'il reste bien debout pour recevoir les coups de fouet. Puis là, les coups de fouet qu'il recevait, c'est des coups de fouet de cuir, tranchant. Très souvent, c'était ajouter des morceaux des tessons, des morceaux de céramique coupante. Puis ceux qui étaient attitrés à la tâche de fouetter, c'était des gars entraînés qui avaient été formés. Ils savaient comment faire claquer le fouet, là. Puis ils étaient robustes parce que c'est quand même un bon exercice de faire ça, là. Puis on sait qu'en moins de 20 coups, le dos est complètement déchiré, là. À chaque coup qui est donné, ça fend. Et c'est pas des petites coupures comme avec une lame de rasoir, ça rend la peau en charpie, là. La peau se déchire, s'arrache. Des lambeaux peuvent tomber. C'est dégueulasse. Une fois que le dos étant bouilli, là, tout le dos est massacré, ça guérit très lentement parce que c'est sujet à infection. Et à l'époque, il n'y avait pas d'antiseptique, du polysporin pour mettre là-dessus. Là. Puis souvent, celui qui avait été flagellé, c'est parce qu'il était prisonnier, donc il pouvait se ramasser dans un cachot. La guérison était très longue. Puis ça pouvait prendre plusieurs mois avant de pouvoir porter un vêtement sans que ça soit une grande souffrance. Donc Paul a reçu ça, lui. 39 coups. Je ne sais pas pourquoi 40 moins 1. Oui, mais c'est parce que dans la description, quand il liste les choses qu'il a subies, il parle tout de suite après qu'il a été subi à des coups de bâton aussi. Mais il voit comme il présente comme un châtiment différent. Le 40 coups moins 1 et battu de verge, c'est deux châtiments différents. Ça peut être par les Juifs, mais pas au Temple à Jérusalem. Là, ça serait pendant ses voyages. Puis, Paul, après avoir subi ce châtiment-là, il l'a reçu une deuxième fois sur le même dos. Je ne sais pas combien de temps s'est passé entre les deux, mais puis on sait que les cicatrices, lorsqu'elles sont réouvertes, ça prend encore plus de temps à guérir. Et ça devait être très souffrant. Puis ça, puis on sait que moins d'un an plus tard, Paul a reçu encore le même châtiment une troisième fois et deux autres fois encore par la suite, cinq fois. Et Paul ne dit pas à ceux qui écrivent des lettres, lorsqu'il parle de ses souffrances, il ne dit pas « Voici, j'ai souffert pour vous, pour que vous puissiez être dans le confort puis douillet. » C'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit plutôt? Très souvent. Il dit « Soyez mes imitateurs. » Et à chaque fois, là, j'ai relevé six passages où est-ce qu'il dit ça, « Soyez mes imitateurs. » Et à chaque fois, dans le contexte, il est en train de parler de subir une injustice ou la persécution, des tribulations ou de la souffrance. Donc, Paul décrit ses souffrances pour encourager les chrétiens, finalement, à l'imiter là-dedans, à faire comme lui. Ben, peut-être qu'on peut jeter un coup d'œil à 1 Corinthiens 4, 16. Quelqu'un d'autre pourrait avoir nous lire 1 Corinthiens 11, 1. Ah oui, c'est ça. Ben, dans les versets précédents, il disait qu'il se fatigue à travailler de ses propres mains, insulté, persécuté, supporte les calomnies. Nous sommes devenus les balayures du monde, les rebuts de tous. Puis après ça, il dit, « Soyez mes imitateurs. » Et au chapitre 11, « Ouais, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, Paul a souffert, et il était conscient qu'il était en train, en fait, d'être un imitateur de Jésus qui a souffert. Donc, si on imite Paul, on est en train d'imiter Jésus dans ses souffrances. Donc, lorsque Jésus a souffert, ce n'était pas pour marquer la fin de la souffrance, pour nous débarrasser. Au contraire, c'était pour être le premier d'entre nous qui souffre. C'était pour nous montrer ce que ça veut dire de porter sa croix tous les jours. Dieu nous a donné la souveraineté. C'est nous qui l'exerçons par la foi. Oui, c'est ça. Dieu est à notre service. Oui, c'est fou, ça. Bien, on va s'en aller là, justement. La souveraineté de Dieu, c'est la conclusion de tout ça, là. On peut se rappeler aussi que non seulement Paul a souffert, mais les chrétiens des premières églises ont souffert aussi. Donc, est-ce que Paul était juste une exception? Non, c'était le lot des chrétiens à l'époque. Donc, est-ce que c'est juste les premières églises qui sont une exception dans l'histoire de l'Église? Non, tous les chrétiens sont censés connaître une forme de souffrance. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus éprouvés que d'autres. Et ceux qui sont à temps plein dans la mission, dans l'évangélisation, vont être sujets à plus de persécutions souvent. Mais il n'y a pas de chrétien qui est exempt de souffrance. Ils ont subi l'emprisonnement, la dispersion, après que Étienne a été lapidé. C'est un peu ironique, mais c'est Paul qui a conduit la première persécution contre l'Église. Il n'était pas encore converti à l'époque, là, mais... Puis les chrétiens qui étaient... les milliers de chrétiens qui étaient à Jérusalem ont été dispersés. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été emprisonnés, les autres se sont dispersés partout. Et partout où ils allaient, ils annonçaient l'Évangile. Ça les a pas... ils ont fui, en fait, le danger mortel, là. Mais ça ne les a pas découragés. Partout où ils allaient, ils annonçaient l'Évangile. Ils ont connu la pauvreté, la disette, même au point où ce que Paul voit la nécessité d'organiser une grande collecte. Il ramasse des dons de plusieurs églises jusqu'à Thessalonique pour aller soutenir les chrétiens à Jérusalem, parce qu'ils sont en train de mourir de faim. Pourtant, c'est des croyants. Mais. Et ils ont subi beaucoup de persécutions, des afflictions. Mais il faut se souvenir que non seulement Dieu permet que ses enfants souffrent, mais il le décide dans sa souveraineté. C'est son plan. C'est notre lot. Et même, c'est montré comme un don de Dieu, quelque chose qu'il donne à ses enfants. Et on doit avouer que c'est difficile à comprendre, cela. C'est pas naturel, là. Quelqu'un te donne un cadeau, puis c'est une souffrance. Mais Dieu nous dit que c'est bon. Philippiens 1, 29 dit, « Car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais de souffrir pour lui. » Souffrir pour le nom de Jésus, c'est une grâce, c'est quelque chose qui nous est donné de Dieu. C'est la volonté de Dieu. En 1 Pierre 3, 17, « Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Donc, il est en train d'exhorter les chrétiens à faire le bien en tout temps. Que s'ils sont en train de souffrir, ce n'est pas une excuse pour commencer à pécher, à faire le mal. Il ne faut pas se relâcher. Mais là, il dit que il y a les souffrances que l'on vit, c'est la volonté de Dieu qu'on les vit. 1 Pierre 4, 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. » Donc, ce n'est pas si vous faites le bien, vous allez arrêter de souffrir. Il n'y a pas cette promesse-là. C'est la volonté de Dieu que vous souffrez, mais sa volonté à Dieu, c'est que non seulement vous souffriez, mais que vous faites le bien à travers ces souffrances-là. Que vous faites quelque chose qui n'est pas naturel, et c'est un témoignage à la gloire de Dieu, ça. Mais la souffrance ne sert pas seulement à cela, c'est un des objectifs. Parce que même quelqu'un qui aurait atteint la perfection, ça n'arrivera pas, là, mais risque encore de subir quand même des souffrances avant de mourir. Oui, bien parfois la souffrance est un châtiment pour notre bien, une correction, mais ce n'est pas seulement cela. Sinon, on pourrait dire à Dieu, « OK, j'ai compris, là, tu m'as assez châtié. » Il ne faut pas résumer toute souffrance qu'on vit simplement à des coups que Dieu nous donne. La souffrance sert à d'autres objectifs aussi, on va le voir la semaine prochaine. Mais on peut voir que toute la vie, toute notre vie entière, incluant tous les obstacles et finalement même la mort, c'est placé sous la volonté souveraine de Dieu. C'est Dieu qui veut cela. C'est Dieu qui l'a planifié. On lit dans Jacques 4, 13, 15, « Vous, maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons des affaires, nous réaliserons un gain. » Donc, on peut projeter des choses. Mais il dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ça sous-entend que si Dieu ne veut pas, ça se peut qu'on ne vive pas, ça se peut qu'on ne pourra pas faire ceci ou cela. Il y a des obstacles qui peuvent arriver dans notre vie parce que Dieu ne veut pas qu'on fasse telle chose ou telle chose. C'est la volonté de Dieu qui s'applique. Et même la Bible va plus loin que ça, jusqu'à dire que Dieu a destiné les croyants à vivre des tribulations. En 1 Thessaloniciens 3, que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. Alors vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Et Paul, après avoir implanté des églises, il retournait par la suite dans les églises et il affermissait l'âme des disciples et les exhortait à demeurer dans la foi. Et il disait, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ne soyez pas étonnés si ça vous arrive. Et maintenant, l'appel final, c'est comme notre frère Élisée nous le disait. C'est quelle est l'attitude qui nous est demandée dans la souffrance? Qu'est-ce qu'on doit adopter comme attitude face aux souffrances dans notre vie? On termine là-dessus, dans 1 Pierre 4. Il dit, « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Donc, on doit s'efforcer d'avoir une pensée comme celle que Jésus avait lorsqu'il a souffert dans la chair. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains. Donc, contrairement à ce que l'Évangile de prospérité semble vouloir réactiver en nous, là, le désir de s'enrichir, le désir d'être populaire, glorifié, dans le confort. C'est tous des désirs humains, mais qui sont corrompus par le péché. Nos désirs ne sont jamais purs. Mais on doit s'armer plutôt que de suivre ces désirs-là, de la pensée de Jésus lorsqu'il souffrait. Selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il reste à vivre dans la chair. Amen.